Chavette, le pendu par conviction, la misanthropie. En 1786, le prieur de l'abbaye d'Épernay avait le nez fin. Prévoyant l'orage révolutionnaire, il s'était économisé sur les bonnes œuvres un petit pécule. Le magot, enfoui au fond d'un pot, sous une couche de graisse d'oie, fut découvert par son valet Alfred un jour de pain sec. Cette trouvaille étonna tant Alfred qu'il l'emporta chez lui pour bien s'en rendre compte. Il eut deux torts, celui de faire un vol et celui de n'en pas profiter. Bientôt pris, dépouillé, condamné à la corde, on l'expédia au Châtelet à Paris pour la ratification de la sentence. Reconnu bon à pendre, il fut remis dans le panier des messageries et, sous la garde d'un officier de robe courte, reprit le chemin d'Épernay où devait avoir lieu l'exécution. En route, il s'échappa. Dormant le jour, fuyant la nuit, le malheureux qui se croyait bien loin fut désagréablement surpris à la fin de la quatrième nuit en se retrouvant sur la place d'Épernay au pied de l'abbaye. Le jour allait poindre, il résolut de se cacher dans la gueule même du loup. Par une certaine brèche, il rentre dans cet établissement dont il connaissait depuis son enfance les coins les plus reculés, surtout ceux où l'on ne mettrait jamais le pied. On était à Matine. Il se glisse vers l'endroit où s'accrochait la clé du clocher, s'en empare, grimpe l'escalier et s'installe au-dessus de la voûte de l'église. Personne ne devait venir le trouver là. Comme Robinson Crusoé allant au faisceau, Alfred, chaque nuit, partait dans l'ombre aux provisions. Vivres, linge, meubles et quelques bons livres. En 5 voyages, il compléta son ménage. Puis, tout à fait établi, il se dit « Oh, maintenant je puis vivre heureux jusqu'à la vieillesse la plus avancée. » Le premier jour, il avait regardé par une lucarne. Sur la place, il avait vu la potence qui semblait lui tendre les bras. « Bah, fit-il, ça lève le cœur. » C'était une charpente humide, sombre, d'un aspect hideux, du moins lui parut-elle, car il pleuvait, le ciel était noir. Un de ces temps durant lesquels on a de goût pour rien. « Oh, plutôt mourir qu'être pendu !» ajouta-t-il. Et il referma la fenêtre. D'abord, tout alla bien. Il mit ses petites affaires en ordre. Il troussa quelques verres. En un mot, il s'occupa. Le manque d'exercice le fit souffrir, car il n'osait remuer. Au moindre mouvement, le bruit de ses pas éveillait l'écho de la voûte sonore. C'était le vrai moment de faire du trapèze, mais ce silencieux instrument d'exercice lui manquait. Alors, l'ennui le gagna. Il voulut se distraire. Il retourna donc à sa lucarne. Le temps s'était éclairci. Le gibet lui parut moins sinistre. « Tiens, s'écria-t-il, il est neuf ! En vrai cœur de chêne. » Il remarqua les coupes d'onglets, le chevillage, la solidité. « J'en aurais eu l'étrenne, » ajouta-t-il. Il pensa aux 500 criminels lui succédant à ce gibet qu'on aurait vite oublié. Son nom seul aurait survécu, car il faisait date et les habitants d'Épernay se seraient toujours dit « Il a été étrenné par Alfred. » Sa vanité fut légèrement chatouillée. La postérité. Quand il quitta la lucarne, s'il n'avait pas entièrement pardonné à la potence, il consentait du moins à la voir. Il s'était d'abord dit « Je vieillirai ici ». Et bientôt, il espéra qu'un jour, dans de longues années, il pourrait peut-être quitter son refuge. « Créons-nous donc un état pour cette époque » pensa-t-il. Et il se mit à apprendre par cœur le code du parfait notaire. Le quatrième jour, qui était le dimanche des rameaux, Alfred s'éveillait tard et fort maussade. Il était aussi fort malade. Les tempes lui battaient avec force, sa vue se voilait, son cerveau craquait. Il était terrassé par cet épouvantable mal qu'on appelle la migraine. Sa souffrance était atroce. Il en chercha la cause. On célébrait en bas le service divin, et les fumées de l'encens qui montaient à la voûte, passant par les crevasses, venaient emplir son refuge de ce lourd parfum. Horreur! Alfred détestait les odeurs, même mauvaises. Alors il se prit à réfléchir. Pâques arrive à la fin d'avril, puis nous entrons en mai, le mois de Marie. Fleurs et encens à profusion, mais que vais-je devenir? Il eut froid à la pensée des horribles souffrances d'une future migraine de 6 semaines de durée, et murmura « On dit que la pendaison est un plaisir. » Ses réflexions furent interrompues par un bruit étrange. « Pchit, 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 pchit !» Il reconnut un mélange de chuchotements. C'étaient les vœux des fidèles qui, portés par les nuages d'encens, traversaient la voûte en montant au ciel. Alors il écouta ses prières au passage. Ce qu'il entendit était si ignoble, si infâme, tant de mauvaises pensées se cachaient sous d'hypocrites paroles, qu'il s'écria « Ah ! Voilà donc ces gens qui veulent me pendre !» Il eut horreur de ces justes. En ce moment, sa fiancée entrait. « Oh, celle-là est bonne !» se dit-il. Il écouta au passage la prière de sa bien-aimée. « Seigneur, si on retrouve mon Alfred, faites que j'assiste à ses derniers instants. » « Elle t'aime, » lui souffla son cœur. Mais elle continuait. « Car on dit que la corde de pendu porte bonheur dans le choix d'un mari. » Sa dernière illusion était éteinte, et comme la rage l'étouffait, il gagna la lucarne pour respirer l'air. La nature était en fête. Sous le lumineux éclat d'un resplendissant soleil, la potence paraissait svelte et coquette. Une fauvette gazouillait, joyeuse, en se balançant mollement sur la corde fraîchement savonnée. Se gibait avec une certaine tournure d'escarpolette. Ça donnait appétit. Au pied se tenait un homme qui, la main placée en visière sur les yeux, regardait au loin la route d'Épernay à Paris qui s'allongeait à l'horizon comme un ruban d'argent. C'était le bourreau qui attendait toujours son client. Cette vue le rafraîchit le cœur. Au moins, celui-là s'intéresse à moi, pensa Alfred. Je suis donc pas seul en ce monde. Puis il ajouta. Il a étudié à Paris, en 10 gourdes il m'expédierait. De tout temps, Paris a exercé un certain prestige en province. Il caressa de l'œil cette potence qui semblait lui dire « Ingrat !» Mais, avant de partir, il voulut analyser à froid pour quelles décevantes espérances de bonheur Il avait un instant tenu à la vie. Alors il trouva la famille, la gloire, l'argent, les femmes, la poésie et la table. Pour toute famille, il ne laissait derrière lui qu'un oncle propriétaire de deux aboutissants défauts. Il était bête et il avait de la mémoire. Il vous infligeait donc sa propre bêtise et se faisait l'écho de celle des autres. La gloire ne lui parut plus que l'unique prétexte pour détruire par masse, en plein midi et à grand bruit, cette pauvre race humaine qui se fabrique peu à peu dans l'ombre le mystère. Le reste n'était plus qu'une question de passementerie. Il se mit à rire au souvenir de ces vaillants engagés qui, par faute de balles, s'arrachaient les dents pour en charger les espingoles. Il vit l'argent entre les mains de trois ou quatre fripons, momentanément adroits, qui, ne pouvant épouser la fortune, l'avaient violé un beau matin dans une cornière. La justice leur faisait rendre gorge. Il songea aux dames d'Épernay qu'il habilla dans sa pensée du seul manteau de leur vertu. Beaucoup criaient « On gèle !» et elles s'enrhumaient. Il pensa à leur mari qui, devant un tiers, n'osait plus dire « Ma moitié !» Les plus philosophes disaient « Notre femme comme les paysans !» Il aurait connu les muses, toujours gueuses, mais toujours vierges, faute de dot. Et sur la table, il vit tous les produits falsifiés, la saine tradition du rôti abandonné. Venaient les ragoûts et les sauces, un cortège de médecins les suivait. Alors il s'écria « Oh, la cuisine s'en va, suivons-la !» Il prit la rampe de l'escalier et descendit. À moitié route, il s'arrêta pour voir une dernière fois le ciel. Un petit nuage lui fit craindre la pluie pour le soir. Il retira sa veste des dimanches et remonta prendre son sarrau. Arrivé sur la place, il chercha des yeux le bourreau, son seul ami. Ce dernier s'éloignait. Faute d'ouvrage et chargé d'une nombreuse famille, le pauvre homme allait au Mont-de-Piété engager la croix de sa mère et la bannière de son père. Car en ce temps-là, la croix et la bannière marchaient encore ensemble. En reconnaissant Alfred, « Oh, je désespérais presque !» lui dit-il avec un doux sourire. On sortait de l'église. Le condamné eut un mouvement de mépris pour cette foule qui s'amassait au pied de la potence. Ah, me voyant pendre, tous ces gens-là vont se croire honnêtes, se dit-il. Comme après tout, c'était un public, la vanité s'en mêla. Il eut peur de mal trépasser. Est-ce dur ? Demanda-t-il tout bas à son ami. Oh, à la longue, non. En gravissant l'échelle, l'ami, comprenant qu'il lui devait au moins une politesse, lui dit tu es un beau garçon, allez, j'offre un petit verre d'anis. À quoi Alfred répondit Non, non, merci, je l'aime, mais il m'incommode pendant 2 jours. 10 secondes après, il était accroché. Quant à la corde de pendu, qui devait tant porter bonheur, de main en main, elle arriva dans celle de la Pérouse, qui partait sur l'astrolabe.